Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers amis, bien chers confrères, bien chers frères qui êtes venus de tous les pays, de tous les horizons, c'est une joie pour nous de vous accueillir et de vous sentir si près de nous en ce moment si important pour notre fraternité et aussi pour l'Église. Je pense que si des pèlerins se sont permis de faire le sacrifice de voyager nuit et jour, de venir de régions très éloignées pour participer à cette cérémonie, c'est qu'ils avaient la conviction et qu'ils venaient pour participer à une cérémonie d'église et participer à une cérémonie qui réjouira leur cœur, parce qu'ils auront ainsi la certitude en rentrant chez eux que l'Église catholique continue. Oh, je sais bien que les difficultés sont nombreuses dans cette entreprise que l'on nous dit être téméraire. On dit que nous sommes dans une impasse. Pourquoi ? Parce que de Rome, nous sommes venus surtout depuis 3 mois, depuis le 19 mars en particulier, fête de Saint-Joseph, des objurgations, des supplications, des ordres, des menaces pour nous dire de cesser notre activité, pour nous dire de ne pas faire ces ordinations sacerdotales. Elles ont été pressantes ces derniers jours. Depuis 12 jours en particulier, nous ne cessons de recevoir des messages ou des envoyés de Rome nous enjoignant de nous abstenir de faire ces ordinations. Mais si, en toute objectivité, nous cherchons quel est le motif véritable qui anime ceux qui nous demandent de ne pas faire ces ordinations, si nous recherchons le motif profond, c'est parce que nous ordonnons ces prêtres afin qu'ils disent la messe de toujours. Et c'est parce que l'on sait que ces prêtres seront fidèles à la messe de l'Église, à la messe de la tradition, à la messe de toujours, qu'on nous presse de ne pas les ordonner. Et je n'en veux pour preuve que 6 fois depuis 3 semaines, 6 fois, on nous a demandé de rétablir des relations normales avec Rome et de donner pour témoignage de recevoir le rite nouveau et de le célébrer moi-même. On est allé jusqu'à m'envoyer quelqu'un qui m'a offert de concélébrer avec moi dans le rite nouveau afin de manifester que j'acceptais volontiers cette nouvelle liturgie et que de ce fait, tout serait aplani entre nous et Rome. On m'a mis dans les mains un missel nouveau en me disant « Voilà la messe que vous devez célébrer et que vous célébrerez désormais dans toutes vos maisons. » On m'a dit également que si en cette date, aujourd'hui, ce 29 juin, devant toute votre assemblée, nous célébrions une messe selon le nouveau rite, tout serait aplani désormais entre nous et Rome. Ainsi donc, il est clair, il est net, que c'est sur le problème de la messe que se joue tout le drame entre Écône et Rome. Est-ce que nous avons tort de nous obstiner à vouloir garder le rite de toujours? Certes, nous avons prié, nous avons consulté, nous avons réfléchi, nous avons médité pour savoir si vraiment c'est nous qui sommes dans l'erreur ou si vraiment nous n'avions pas de raison suffisante de ne pas nous soumettre à ce nouveau rite. Eh bien, justement, l'insistance que mettent ceux qui sont envoyés de Rome pour nous demander de changer de rite nous fait réfléchir. Et nous avons la conviction que précisément ce rite nouveau de la messe exprime une nouvelle foi, une foi qui n'est pas la nôtre, une foi qui n'est pas la foi catholique. Cette nouvelle messe est un symbole, est une expression, est une image d'une foi nouvelle, d'une foi moderniste. Car si la très sainte Église a voulu garder tout au cours des siècles ce trésor précieux qu'elle nous a donné du rite de la sainte messe qui a été canonisé par Saint Pie V, ce n'est pas pour rien. C'est parce que dans cette messe se trouve toute notre foi, toute la foi catholique, la foi dans la très sainte Trinité, la foi dans la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, la foi dans la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ, la foi dans tout le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a coulé pour la rédemption de nos péchés, la foi dans la grâce surnaturelle qui nous vient du saint sacrifice de la messe, qui nous vient de la croix, qui nous vient par tous les sacrements. Voilà ce que nous croyons, voilà ce que nous croyons en célébrant le saint sacrifice de la messe de toujours. Cela est une leçon de foi et en même temps une source de notre foi, indispensable pour nous en cette époque où notre foi est attaquée de toutes parts. Nous avons besoin de cette messe véritable, de cette messe de toujours, de ce sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ pour réellement remplir nos âmes du Saint-Esprit et de la force de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, il est évident que ce rite nouveau est sous-tendu, si je puis dire, suppose une autre conception de la religion catholique, une autre religion. Ce n'est plus le prêtre qui offre le saint sacrifice de la messe, c'est l'assemblée. Or, ceci est tout un programme, tout un programme. Désormais, c'est l'assemblée aussi qui remplace l'autorité dans l'Église. C'est l'assemblée épiscopale qui remplace le pouvoir des évêques. C'est le conseil presbytéral qui remplace le pouvoir de l'évêque dans le diocèse. C'est le nombre qui commande désormais dans la Sainte Église. Et ceci est exprimé dans la messe précisément parce que l'assemblée remplace le prêtre, à tel point que maintenant beaucoup de prêtres ne veulent plus célébrer la Sainte Messe quand il n'y a pas d'assemblée. Tout doucement, c'est la notion protestante de la messe qui s'introduit dans la Sainte Église. Et ceci est conforme à la mentalité de l'homme moderne, à la mentalité de l'homme moderniste, absolument conforme, car c'est l'idéal démocratique qui est fondamentalement l'idée de l'homme moderne, c'est-à-dire que le pouvoir est dans l'assemblée, l'autorité est dans les hommes, dans la masse et non pas en Dieu. Et ceci est très grave, parce que nous croyons que Dieu est tout-puissant, nous croyons que Dieu a toute autorité, nous croyons que toute autorité vient de Dieu. Omnis potestas ad Deo, toute autorité vient de Dieu. Nous ne croyons pas, nous, que l'autorité vient du peuple, que l'autorité vient de la base. Or, c'est ça la mentalité de l'homme moderne. Et notre messe n'en est pas moins l'expression, la nouvelle messe, n'est pas moins l'expression de cette idée que l'autorité se trouve dans la base et non plus en Dieu. Cette messe n'est plus une messe hiérarchique, c'est une messe démocratique. Et ceci est très grave. C'est l'expression de toute une nouvelle idéologie. On a fait entrer l'idéologie de l'homme moderne dans nos rites les plus sacrés. Et c'est ceci qui corrompt actuellement toute l'Église. Car par cette idée de pouvoir accorder à la base dans la Sainte Messe, on a détruit le sacerdoce. On détruit le sacerdoce. Car qu'est-ce qu'est le prêtre? Si le prêtre n'a plus un pouvoir personnel, ce pouvoir qui lui est donné par son ordination, comme vont le recevoir dans un instant ces futurs prêtres, ils vont recevoir un caractère qui va les mettre au-dessus du peuple de Dieu. Ils ne pourront plus jamais dire, après la cérémonie qu'ils auront reçue, ils ne pourront jamais dire « nous sommes des hommes comme les autres ». Ce n'est pas vrai. Ils ne seront plus des hommes comme les autres. Ils seront des hommes de Dieu. Ils seront des hommes, je dirais presque, qui participent à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ par son caractère sacerdotal. Car notre Seigneur Jésus-Christ est prêtre pour l'éternité, prêtre selon l'ordre de Melchisédek, parce qu'il est Jésus-Christ. Parce que la divinité du Verbe de Dieu a été infusée dans cette humanité qu'il a assumée. Et c'est au moment où il a assumé cette humanité dans le sein de la très sainte Vierge Marie que Jésus est devenu prêtre. La grâce à laquelle ces jeunes prêtres vont participer n'est pas la grâce sanctifiante dont notre Seigneur Jésus-Christ nous fait participer par la grâce du baptême. C'est la grâce d'union. Cette grâce d'union unique à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à cette grâce qu'ils vont participer, car c'est par sa grâce d'union à la divinité de Dieu, à la divinité du Verbe, que notre Seigneur Jésus-Christ est devenu prêtre, que notre Seigneur Jésus-Christ est roi, que notre Seigneur Jésus-Christ est juge, que notre Seigneur Jésus-Christ doit être adoré par tous les hommes, par sa grâce d'union, grâce sublime, grâce que jamais aucun être ici-bas n'a pu recevoir. Cette grâce de la divinité même, descendant dans une humanité qu'est notre Seigneur Jésus-Christ, loignant en quelque sorte comme l'huile qui descend sur la tête et qui consacre celui qui reçoit cette huile. L'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ a été pénétrée par la divinité du Verbe de Dieu et c'est ainsi a été fait prêtre, il a été fait médiateur entre les hommes, entre Dieu et les hommes. Et c'est à cette grâce-là que vont participer ces prêtres qui les mettront au-dessus du peuple de Dieu. Ils seront aussi, eux, les intermédiaires entre Dieu et le peuple de Dieu. Ils ne seront pas seulement les représentants du peuple de Dieu. Ils ne seront pas les mandatés du peuple de Dieu. Ils ne seront pas seulement les présidents de l'Assemblée. Ils sont prêtres pour l'éternité, marqués de ce caractère pour l'éternité. Et personne n'a le droit de ne pas les respecter. Même si eux ne respectaient pas ce caractère, ils l'ont toujours en eux, ils l'auront toujours en eux. Voilà ce que nous croyons, voilà quelle est notre foi. Et voilà ce qui constitue notre saint sacrifice de la messe. C'est le prêtre qui offre le saint sacrifice de la messe. Et les fidèles participent à cette offrande de tout leur cœur, de toute leur âme. Mais ce ne sont pas eux qui offrent le sacrifice de la messe. À preuve que le prêtre, quand il est seul, offre le sacrifice de la messe de la même manière et avec la même valeur que s'il y a 1000 personnes qui l'entourent. Son sacrifice a une valeur infinie, le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, offert par le prêtre, a une valeur infinie. Voilà ce que nous croyons. Et c'est pourquoi nous pensons que nous ne pouvons pas accepter ce rite nouveau qui est l'œuvre d'une autre idéologie, une idéologie nouvelle. On a cru attirer le monde en prenant les idées du monde. On a cru attirer à l'Église des gens qui ne croient pas, en prenant les idées de ces personnes qui ne croient pas, en prenant les idées de l'homme moderne, cet homme moderne qui est un homme libéral, qui est un homme moderniste, qui est un homme qui accepte la pluralité des religions, qui n'accepte plus la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci, je l'ai entendu par deux fois, par les envoyés du Saint-Siège, qui m'ont dit que la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ n'était plus possible en notre temps. Qu'il fallait accepter définitivement le pluralisme des religions. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Que si l'encyclique Quas Primas, qui a été écrite et qui est si belle sur la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été écrite par le pape Pie XI, ne le serait plus aujourd'hui par le pape. Voilà ce qu'ils m'ont dit, les envoyés officiels du Saint-Siège. Alors nous ne sommes pas de cette religion. Nous n'acceptons pas cette nouvelle religion. Nous sommes de la religion de toujours. Nous sommes de la religion catholique. Nous ne sommes pas de cette religion universelle, comme ils l'appellent aujourd'hui. Ce n'est plus la religion catholique. Nous ne sommes pas de cette religion libérale, moderniste, qui a son culte, ses prêtres, sa foi, ses catéchismes, sa Bible œcuménique. Nous ne les acceptons pas. Nous n'acceptons pas la Bible œcuménique. Il n'y a pas de Bible œcuménique. Il y a la Bible de Dieu. La Bible de l'Esprit-Saint, qui a été écrite sous l'influence de l'Esprit Saint. C'est la parole de Dieu. Nous n'avons pas le droit de la mélanger avec la parole des hommes. Il n'y a pas de Bible œcuménique qui puisse exister. Il n'y a qu'une parole, la parole du Saint-Esprit. N'acceptons pas les catéchismes qui n'affirment plus notre credo. Et ainsi de suite. Nous ne pouvons pas accepter ces choses-là. C'est contraire à notre foi. Nous regrettons infiniment. C'est une douleur immense, immense pour nous de penser que nous sommes en difficulté avec Rome à cause de notre foi. Comment est-ce possible? C'est une chose qui dépasse l'imagination, que jamais nous n'aurions pu penser, jamais nous n'aurions pu croire, surtout dans notre enfance, alors que tout était uniforme, que toute l'Église croyait dans son unité générale, la même foi, avait les mêmes sacrements, le même sacrifice de la messe, le même catéchisme. Voici que tout à coup, tout cela est dans la division, dans le déchirement. Je l'ai dit à ceux qui sont venus de Rome, je l'ai dit, des chrétiens sont déchirés dans leur famille, dans leur foyer, parmi leurs enfants, sont déchirés dans leur cœur à cause de cette division dans l'Église, de cette nouvelle religion que l'on enseigne et que l'on pratique. Des prêtres meurent prématurément, déchirés dans leur cœur et dans leur âme, de penser qu'ils ne savent plus que faire, ou se soumettre à l'obéissance et perdre en quelque sorte la foi de leur enfance et de leur jeunesse, mais renoncer aux promesses qu'ils ont faites au moment de leur sacerdoce en prêtant le serment antimoderniste, ou alors avoir l'impression de se séparer de celui qui est notre Père, le Pape, de celui qui est le représentant de Saint-Pierre. Quel déchirement pour les prêtres! Des prêtres, beaucoup de prêtres sont morts prématurément de douleur. Des prêtres maintenant sont chassés de leurs églises, persécutés, parce qu'ils disent la messe de toujours. Nous sommes dans une situation vraiment dramatique. Alors nous avons à choisir entre une apparence, je dirais, d'obéissance, car le Saint-Père ne peut pas nous demander d'abandonner notre foi. C'est impossible, impossible, et l'abandon de notre foi. Eh bien, nous choisissons de ne pas abandonner notre foi, car en cela, nous ne pouvons pas nous tromper. Ce que l'Église a enseigné pendant 2000 ans, l'Église ne peut pas être dans l'erreur. C'est absolument impossible. Et c'est pourquoi nous sommes attachés à cette tradition qui s'est exprimée d'une manière admirable et d'une manière définitive, comme l'a dit si bien le pape Saint-Pie V, d'une manière définitive dans le Saint-Sacrifice de la Messe. Demain peut-être, dans des journaux, paraîtront notre condamnation. C'est très possible, à cause de cette ordination d'aujourd'hui. Je serai moi-même frappé d'une suspense, probablement. Ces jeunes prêtres seront frappés par une irrégularité qui, en principe, devrait les empêcher de dire la Sainte Messe. C'est possible. Eh bien, je fais appel à Saint Pie V. Saint Pie V, qui dans sa bulle a dit que, à perpétuité, on ne pourra jamais, aucun prêtre ne pourra encourir une censure, quel qu'il soit, à perpétuité, s'il dit cette messe. Et par conséquent, cette censure, cette excommunication, s'il y en avait une, ces censures, s'il y en a, sont absolument invalides, contraires à ce que Saint Pie V a affirmé solennellement dans sa bulle à perpétuité. Que jamais, en aucun temps, on ne pourra infliger une censure à un prêtre qui dira cette sainte messe. Pourquoi? Parce que cette messe est canonisée. Il l'a canonisée définitivement. Or, un pape ne peut pas enlever une canonisation. Le pape peut faire un nouveau rite, mais il ne peut pas enlever une canonisation. Il ne peut pas interdire une messe qui est canonisée. Ainsi, s'il a canonisé un saint, un autre pape ne peut pas venir et dire que ce saint n'est plus canonisé. Ce n'est pas possible. Alors, cette sainte messe a été canonisée par Saint Pie V. Et c'est pourquoi nous pouvons la dire en toute tranquillité, en toute sécurité, et même être certains qu'en disant cette messe, nous professons notre foi, nous entretenons notre foi et nous entretenons la foi des fidèles. C'est la meilleure manière de l'entretenir. Et c'est pourquoi nous allons procéder dans quelques instants à ces ordinations. Certes, nous souhaiterions avoir une bénédiction comme on en avait autrefois du Saint-Siège. On avait des bénédictions venant de Rome pour les nouveaux ordinants. Mais nous pensons que le bon Dieu est là, qui voit toutes choses et qui bénit aussi cette cérémonie que nous faisons et qui un jour en tirera les fruits qu'il désire certainement. et nous aidera en tout cas à maintenir notre foi et à maintenir l'Église. Nous le demandons surtout à la très sainte Vierge Marie et à saint Pierre et saint Paul aujourd'hui. Nous demandons à la très sainte Vierge, qui est la mère du sacerdoce, de donner à ces jeunes la véritable grâce du sacerdoce, de donner l'Esprit Saint qu'elle a donné par son intermédiaire aux apôtres le jour de la Pentecôte. Et nous demandons à saint Pierre et saint Paul de maintenir en nous cette foi dans Pierre. Oh oui, nous avons la foi dans Pierre, nous avons la foi dans le successeur de Pierre. Mais comme le dit très bien le pape Pie IX dans sa constitution dogmatique, n'est-ce pas, le pape a reçu le Saint-Esprit, non pas pour faire des vérités nouvelles, mais pour nous maintenir dans la foi de toujours. Voilà la définition du pape faite au moment du concile du Vatican Ier par le pape Pie IX. Et c'est pourquoi nous sommes persuadés. En maintenant ces traditions, nous manifestons notre amour, notre docilité, notre obéissance au successeur de Pierre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, cette fête de l'Immaculée Conception, dont le dogme a été proclamé solennellement par le pape Pie IX en 1854, était confirmée ensuite par la Sainte Vierge elle-même à Bernadette, à Lourdes, en 1858. Sans doute, cette fête de l'Immaculée Conception est beaucoup plus ancienne que sa définition, et précisément, la définition de ces dogmes intervient toujours par les souverains pontifes, après que l'Église, dans sa tradition et dans sa foi, a montré d'une manière permanente qu'elle croyait à cette vérité que notre Seigneur Jésus-Christ a révélée par ses apôtres. Ainsi, la vérité que nous fêtons aujourd'hui concernant l'Immaculée Conception de la très sainte Vierge Marie est une vérité contenue dans la révélation, affirmé par conséquent par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Cette fête nous donne une grande leçon, et particulièrement à vous, mes chers amis, qui dans quelques instants allez prononcer votre engagement pour la première fois ou le renouveler. Je pense que je dois attirer votre attention sur le fait que cet engagement vous demande de pratiquer d'une manière toute particulière et véritablement avec tout votre cœur, avec toute votre adhésion, la sainte vertu d'obéissance. Et s'il est une vertu qui ressort de cette fête de l'Immaculée Conception, c'est précisément la vertu d'obéissance. Pourquoi ? Parce que ce qui nous a fait perdre la grâce sanctifiante, ce qui nous a fait perdre l'amitié de Dieu, c'est le péché d'Ève, de la mère de l'humanité. Par son péché, par sa désobéissance, elle a entraîné après elle toutes les âmes qui l'ont suivie. Depuis que ce péché de nos premiers parents est intervenu dans l'histoire de l'humanité, tous ceux qui naissent désormais naissent avec le péché originel, sauf la très sainte Vierge Marie, excepté la très sainte Vierge Marie. Ainsi donc, notre Seigneur Jésus-Christ a voulu, Dieu a voulu, que dans cette histoire de l'humanité, qui a été flétrie en quelque sorte par le péché de la désobéissance de la mère de l'humanité, que ce soit par une créature semblable, par notre mère du ciel, la très sainte Vierge Marie, que cette faute soit réparée. Et si donc c'est par une désobéissance qu'a commencé le péché dans l'humanité, c'est par l'obéissance de la très sainte Vierge Marie que ce péché a été réparé. Il y a donc là une antithèse admirable et qui est voulue, a été voulue, ou du moins permise, par le bon Dieu. Certes, le bon Dieu n'a pas voulu le péché, mais il a permis cette faute de l'humanité, comme le dit la liturgie du samedi saint. Felix culpa, heureuse faute d'une certaine manière, dans un certain sens, qui nous a mérité tant de grâce, qui nous a mérité d'avoir au milieu de nous le Fils de Dieu et qui nous a mérité d'avoir la très sainte Vierge Marie. Et encore faut-il que nous profitions précisément de cette leçon et de la grâce que nous offre la très sainte Vierge Marie, leçon d'obéissance, grâce sanctifiante, elle qui est dite pleine de grâce. Pourquoi est-elle pleine de grâce? Parce qu'elle a obéi, parce qu'elle s'est soumise à Dieu. Et c'est cela précisément que nous devons avoir comme premier désir de nos existences. La vertu d'obéissance est au cœur même de notre sanctification. Elle est au cœur de toute notre vie, de notre vie naturelle, de notre vie surnaturelle. Il ne peut pas y avoir de véritable vie naturelle sans obéissance. Il ne peut y avoir de vraie vertu, de vraie vie surnaturelle sans l'obéissance. Qu'est-ce donc que l'obéissance? En quoi consiste-t-elle? Il me semble qu'on pourrait la définir comme la vertu de Dieu, virtus Dei omnipotentis, la vertu de Dieu Tout-Puissant, s'infusant dans nos âmes, dans nos existences, dans notre volonté, dans notre intelligence, dans notre corps, cette vertu du Dieu Tout-Puissant. Vertu qui est la force du Dieu Tout-Puissant, s'inscrivant dans nos vies, dans notre vie quotidienne, dans nos existences, parce que nous ne sommes rien sans cette vertu du Dieu Tout-Puissant. Et cette vertu du Dieu Tout-Puissant s'inscrit par les lois, par les commandements de Dieu, par les commandements de vie. Aime ton Dieu, aime ton prochain, voilà ce que nous devons faire. Et c'est à cette condition que nous vivrons, que nous vivrons dans l'ordre naturel comme dans l'ordre surnaturel. Nous devons donc avant tout avoir le désir de voir cette vertu de Dieu, cette vertu naturelle et surnaturelle de Dieu s'infuser dans nos âmes et nous prendre tout entier, tout ce que nous sommes. Ne rien faire échapper à cette toute-puissance de Dieu en nous. Nous soumettre entièrement à la grâce du bon Dieu, à sa force, à sa vie. Voilà ce qu'est l'obéissance. Et voilà le fruit de l'obéissance. La vie naturelle, la vie surnaturelle, et par le fait même, la vie de la vision béatifique, la vie éternelle. Tout est inscrit dans cette obéissance, dans cette vertu d'obéissance. Quoi ceci doit être, mes chers amis, pour vous, pendant que vous prononcez votre engagement, une disposition profonde de vos âmes. Je veux être obéissant, obéissant toute ma vie, obéissant à Dieu, me soumettre à ce désir de Dieu, de me voir vivre, de me communiquer sa vie, de me communiquer sa vie en me communiquant sa vérité dans nos intelligences, par la lumière naturelle de notre raison, de notre intelligence, mais aussi et surtout par la lumière de la foi, car ce n'est pas autre chose que la foi. C'est l'obéissance de nos intelligences à la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne sa vérité, qui nous transmet sa vérité. Et cette vérité est une source de vie. Ce sera pour vous une source de vie, une source de grâce. Alors soumettez pleinement vos intelligences et vos volontés à notre Seigneur Jésus-Christ. Demandez-le par l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Demandez-lui qu'elle vous donne cette grâce, qu'elle vous donne cette humilité de vous soumettre entièrement à sa sainte volonté. Elle vous en a montré l'exemple par son fiat, par son humilité. Quia respexit humilitatem meam, nous le chantons dans le Magnificat. C'est encore sa cousine Élisabeth qui lui dit: Beata que credidisti, bienheureuse parce que tu as eu la foi. La foi n'est pas autre chose que l'obéissance de notre intelligence, la soumission de nos intelligences à la vérité révélée par l'autorité de Dieu. Voilà ce que doit être votre obéissance. Et par cette grâce d'obéissance, vous transformerez vos vies. Vos vies seront pleinement conformes à la volonté de Dieu. Mais alors, évidemment, dans les circonstances dans lesquelles nous vivons, dans la confusion dans laquelle l'Église se trouve aujourd'hui, nous pouvons nous demander, mais où est cette obéissance aujourd'hui? Comment se réalise dans la Sainte Église l'obéissance aujourd'hui? Eh bien, nous ne devons pas oublier que la première de nos obéissances, notre obéissance fondamentale, notre obéissance radicale, notre obéissance doit être totale à notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu, car c'est lui qui nous demande notre obéissance, c'est lui qui nous demande notre soumission. Et le bon Dieu a tout fait pour que nous soyons éclairés dans notre obéissance. Pendant 2000 ans d'existence de l'Église, la lumière a été donnée, par la révélation, par les apôtres, par les successeurs des apôtres, par Pierre, par les successeurs de Pierre. Et s'il est arrivé d'aventure que quelque erreur se soit glissée ou quelque transmission de la vérité n'ait pas été faite exactement, l'Église l'a redressée. L'Église a eu le soin de nous transmettre une vérité conforme à la volonté de Dieu. Et voici que par un mystère insondable, la Providence permet que notre temps soit peut-être un temps unique dans l'histoire de l'Église, que ces vérités ne sont plus transmises avec la fidélité avec laquelle l'Église l'a transmise pendant 2000 ans. Ne recherchons même pas les causes, d'une certaine manière, ne recherchons même pas la responsabilité de ces faits, mais ces faits sont là, devant nous. La vérité qui était enseignée aux enfants, aux pauvres, par Operes Evangelizantur, les pauvres sont évangélisés, disait notre Seigneur à Saint Jean-Baptiste, aux envoyés de Saint Jean-Baptiste. Eh bien aujourd'hui les pauvres ne sont plus évangélisés, on ne leur donne plus le pain que les enfants réclament, le vrai pain, le pain de vie. On a transformé nos sacrifices, nos sacrements, nos catéchismes, et alors nous sommes stupéfaits et nous sommes douloureusement surpris. Que faire devant cette réalité, angoissante, déchirante, écrasante? Garder la foi, obéir à notre Seigneur Jésus-Christ, obéir à ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné pendant 2000 ans. Dans un moment de terreur, dans un moment de confusion, dans un moment de désagrégation de l'Église, que devons-nous faire? Sinon, nous en tenir à ce que Jésus a enseigné et à ce que son Église a enseigné et nous a donné comme la vérité pour toujours, définie pour toujours. On ne peut plus changer ce qui a été défini une fois pour toutes par les souverains pontifes avec leur infaillibilité. Ce n'est plus changeable. Nous n'avons pas le droit de modifier la vérité qui est inscrite pour toujours dans nos livres saints, car cette immutabilité de la vérité correspond à l'immutabilité de Dieu. C'est une communication de l'immutabilité de Dieu à l'immutabilité de nos vérités. Changer nos vérités, ce voudrait dire changer l'immutabilité de Dieu. Or, nous le récitons tous les matins à prime, immotus in se permanens, immotus in se permanens, Dieu demeurant immuable en lui-même pendant tout le temps. Alors nous devons donc nous attacher à cette vérité qui nous est enseignée d'une manière permanente et ne pas nous laisser troubler par le désordre que nous constatons aujourd'hui, et par conséquent savoir à certains moments ne pas obéir pour obéir, car c'est cela en définitive. Car cette vertu dont je vous parlais tout à l'heure du Dieu Tout-Puissant, le bon Dieu a voulu qu'elle nous soit transmise d'une certaine manière par les hommes qui participent à son autorité. Mais dans la mesure où ces créatures ne sont pas fidèles à la transmission de cette vie et de cette vertu de Dieu, dans cette mesure-là aussi, nous ne pouvons plus accepter leurs ordres et les obligations qu'ils nous imposent, parce que obéir à des hommes qui transmettent d'une manière infidèle le message qui leur est donné, ce serait désobéir à Dieu. Ce serait désobéir au message de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors quand nous avons le choix, obéir au message de notre Seigneur Jésus-Christ ou obéir au message d'hommes qui nous sont transmis par les hommes, dans la mesure où le message qui nous est transmis par les hommes correspond à celui de notre Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons aucun droit de ne pas leur obéir jusqu'au dernier iota. Mais dans la mesure où ces ordres, où ces obligations nous sont données, ne correspondent pas à celles que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne, nous ne pouvons pas, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. À ce moment-là, ces hommes ne remplissent pas la fonction pour laquelle ils ont reçu l'autorité que le bon Dieu leur a donnée. C'est pourquoi saint Paul disait lui-même, si un ange du ciel, ou nous-mêmes, dit-il, par conséquent, si moi, Paul, disait saint Paul, si un ange du ciel ou moi-même, Paul, je vous enseigne une vérité contraire à celle qui vous a été enseignée primitivement, ne nous écoutez pas. C'est cela, nous sommes devant cette réalité. Et je dirai moi-même bien volontiers, mes chers amis, je vous répéterai cette parole bien volontiers. S'il m'arrivait à moi de vous enseigner quelque chose qui soit contraire à ce que toute la tradition de l'Église vous enseignait, ne m'écoutez pas. À ce moment-là, vous avez le droit de ne pas m'obéir, et vous avez le devoir de ne pas m'obéir, parce que je ne serai pas fidèle à la mission que le bon Dieu m'a donnée. Voilà ce que doit être notre obéissance. Avant tout, obéir à Dieu. C'est le seul moyen pour nous d'arriver à la vie éternelle, car c'est cette obéissance qui commande la voie qui mène à la vie éternelle. Et en cela, nous suivons l'exemple de la très sainte Vierge Marie. Elle a été l'obéissance même. Elle est l'exemplaire le plus parfait, le plus beau, le plus sublime de l'obéissance, contrairement à la désobéissance de la mère de l'humanité. Alors demandons aujourd'hui, mes chers amis, à la très sainte Vierge Marie de nous enseigner cette obéissance, de nous la faire garder jusqu'à notre mort, et de faire en sorte que les promesses que vous allez dire dans quelques instants soient vraiment l'expression de ce que vous avez au plus profond de votre âme. Et si, dans ces prières, il m'a semblé souhaitable de mettre la belle prière que nous enseigne le missel romain peu avant la consécration de l'Eucharistie, Ancigitur oblationem servitutis nostrae, recevez, ô mon Dieu, l'oblation de notre obéissance, de notre esclavage, Ancoblationem servitutis nostrae. C'est ce que vous allez réciter, bien que tous les jours, si le bon Dieu vous fait la grâce d'être prêtre, quand vous réciterez cette prière, et dès à présent, quand vous la récitez avec le prêtre, renouvelez votre profession d'obéissance et d'esclavage envers Dieu et envers la très sainte Vierge Marie. Que ce soit là aujourd'hui la grâce que le bon Dieu vous accorde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Mesdames, Messieurs, et bien chers amis, je tiens à remercier de tout cœur tous ceux qui ont organisé cette réunion. Et je suis parfaitement d'accord et je signerai volontiers les paroles que vient de prononcer le représentant du comité qui nous a invités, de même que je tiens aussi à dire à Monsieur le Président du comité qui a répondu à la lettre des évêques Je tiens à lui dire que je suis prêt aussi à signer la réponse qu'il a faite aux évêques et que je suis pleinement d'accord avec les sentiments qui animent les membres de ce comité qui m'ont invité aujourd'hui. La principale objection qui nous est faite par la lettre des évêques allemands est que nous divisons, que nous rompons l'unité de l'Église, que nous sommes tout près de faire schisme, que nous sommes opposés à l'Église de Rome. Eh bien, il me semble que je me dois de répondre à cette attaque qui nous est faite en disant, où se trouve l'unité de l'Église? L'unité de l'Église se trouve dans la foi catholique, dans la foi que nous professons. Dans la foi qui a été professée pendant 2000 ans et qui est inscrite comme en lettres d'or dans le catéchisme du Concile de Trente et dans tous les catéchismes qui, comme celui du Concile de Trente, ont exprimé exactement la foi de l'Église. C'est dans cette unité et dans cette seule unité que l'on peut trouver l'Église catholique. Et c'est pourquoi je tiens à répondre que nous ne pouvons pas faire de schisme, nous ne pouvons pas être contre l'Église de Rome, nous ne pouvons pas être contre le souverain pontife, mais nous sommes contre tous ceux qui détruisent l'Église, contre tous ceux qui font schisme dans l'Église, contre tous ceux qui s'éloignent de l'Église et qui voudraient que nous nous éloignions avec eux. On nous accuse également de ne pas comprendre bien la foi catholique et de la considérer comme quelque chose de statique, de scléroser, que nous sommes encore à la foi du Moyen-Âge. Eh bien, nous pensons, en effet, que notre foi est basée sur la révélation qui nous a été donnée par les apôtres et que la révélation a été terminée avec la mort du dernier des apôtres et que le rôle du pape, le rôle des évêques est de nous transmettre la révélation, de nous transmettre le dépôt de la foi. C'est ce que dit le Concile Vatican Ier. Le rôle du Saint-Père n'est pas de nous donner des vérités nouvelles, mais de nous transmettre fidèlement et exactement le dépôt de la foi. Ce sont les paroles du pape Pie IX dans sa constitution Pastor Eternus, dans laquelle il définit l'infaillibilité du Saint-Père. Par conséquent, tout dans l'Église est au service de la foi de toujours. Tout dans l'Église, le droit, la juridiction, le pouvoir des évêques, l'autorité du pape et des évêques, est au service de notre foi catholique. Et s'ils ne remplissent pas ce rôle, si au lieu de nous transmettre vraiment la doctrine catholique, ils nous transmettent une doctrine qui n'est plus la doctrine catholique, qui est une doctrine moderniste, une doctrine libérale, alors ils ne remplissent pas leur devoir, ils ne sont pas de véritables pasteurs. Et c'est pourquoi nous supplions Rome, nous supplions les cardinaux qui sont à Rome, nous supplions les évêques de tous les diocèses de nous transmettre véritablement la foi de toujours, la foi de nos pères, la foi des apôtres, la foi de tous ceux qui sont morts, qui ont donné leur sang pour défendre cette foi. On nous accuse d'être à droite, on nous accuse d'être extrême droite, on nous accuse de recevoir de l'argent des États-Unis ou d'autres, des organismes qui seraient des organismes d'extrême droite également. On nous accuse de toutes sortes de choses. On voudrait nous dire également que nous faisons le culte de la personnalité, que je cherche moi-même à me mettre en avant pour être le grand leader de tous les catholiques. Autant de choses fausses, absolument inexactes. Mais je pense que nos adversaires, ceux qui ne sont pas contents de notre combat pour la foi, essayent de détourner l'attention sur le véritable problème qui nous préoccupe en essayant de faire croire que nous avons d'autres intentions que celle de défendre notre foi. Or, nous n'avons pas d'autre but, nous n'avons pas d'autres intentions que de garder la foi catholique. Et par conséquent, pour garder notre foi catholique, nous voulons garder le sacerdoce catholique. Et c'est pourquoi je fais des séminaires, pour garder le sacerdoce catholique. Et pourquoi garder le sacerdoce catholique ? Pour garder la Sainte Messe catholique, pour garder le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous pensons que seulement par la vraie messe, par la messe authentique qui a été dite pendant 2000 ans dans l'Église, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, le règne sur les familles et le règne sur les individus de notre Seigneur Jésus-Christ peut se réaliser. Et c'est pour ça que nous demandons et nous voulons garder le sacerdoce catholique et la messe catholique de toujours, pour que Jésus-Christ règne sur nos individus, sur nos familles et sur la société. Et c'est pourquoi, à l'occasion de l'audience que j'ai eue auprès du Saint-Père, il y a maintenant un peu plus d'un mois, j'ai eu l'occasion de dire au Saint-Père, vous dites que je suis le chef, que je suis le chef de tous les traditionalistes. Eh bien, ce n'est pas exact. Je ne suis pas le chef de tous les traditionalistes. Je suis un parmi les millions de catholiques qui ne peuvent plus supporter la destruction de l'Église, qui ne peuvent plus... qui ne peuvent plus accepter cette dégradation, cette autodémolition de l'Église dont vous avez parlé vous-même. Je suis un de ces catholiques parmi tous ceux qui sont dans le monde entier et qui vous demandent en grâce de revenir sur ce qui a été fait au cours de cette dernière période après le Concile, afin de retourner véritablement à la tradition. Et c'est pourquoi nous vous demandons au moins de nous laisser prier comme nos parents ont prié, prier comme nous avons prié dans notre jeunesse, dire la Sainte Messe comme nous l'avons faite autrefois. Et j'avoue que j'avais un certain espoir que le pape écoute ma demande lorsque je lui ai dit, très Saint-Père, c'est vous qui avez la solution du problème dans les mains. Vous n'avez qu'un mot à dire aux évêques pour qu'ils nous accueillent charitablement, ceux qui veulent prier comme autrefois, ceux qui veulent prier avec la messe d'autrefois, avec les sacrements d'autrefois, avec le catéchisme de toujours. Nous vous demandons de laisser cette possibilité à ceux qui veulent le faire, puisque nous sommes à l'époque du pluralisme, que je n'aime pas d'ailleurs, mais enfin, puisque c'est l'époque du pluralisme, eh bien, laissez-nous cette possibilité. Et le Saint-Père n'avait pas refusé immédiatement. Il aurait pu me dire, ah non, jamais. Désormais, les choses sont changées et vous n'avez plus le droit de penser à ce qui s'est fait autrefois. Mais le Saint-Père ne m'a pas dit ça. Le Saint-Père, au contraire, m'a laissé entendre qu'il réfléchirait, qu'il prierait, qu'il consulterait la curie romaine. Et par conséquent, je suis sorti de l'audience avec un tout petit espoir que peut-être on nous accorderait cette charité, cette compréhension de la part des évêques, de la part de Rome. Hélas, la lettre que j'ai reçue il y a 8 jours est absolument négative et absolument opposée à toute ouverture, à toute permission, refus total de toute possibilité de continuer encore la tradition. Et par conséquent, j'ai été très surpris. J'ai pu penser, évidemment, que puisqu'il avait dit qu'il consulterait, que ses conseillers lui l'ont détourné de toute ouverture vis-à-vis de la tradition, mais de se maintenir absolument sur toutes les réformes qui ont été faites depuis le Concile Vatican II. Et cela, évidemment, est absolument incroyable et en même temps impossible à accepter. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, par l'acceptation de choses qui vont contre notre foi, qui détruisent notre foi, nous ne pouvons pas les accepter. C'est pourquoi, malgré la peine que nous éprouvons de devoir dire à nos évêques et de devoir dire à Rome que ce qui nous est demandé maintenant n'est pas conforme à ce que les prédécesseurs du pape nous ont demandé. C'est ce que je lui ai dit d'ailleurs au Saint-Père. Nous voudrions être tout entiers à vos pieds et vous suivre entièrement, mais voyez-vous, les orientations qui sont données actuellement depuis le Concile vont à l'encontre de ce que vos prédécesseurs eux-mêmes ont enseigné. Alors nous avons un choix à faire, ou nous vous suivons parfaitement et nous nous éloignons de la doctrine de vos prédécesseurs, ou nous suivons vos prédécesseurs et nous sommes obligés de nous éloigner tant soit peu de vous. Et cela est un problème très grave pour nous, et nous ne pouvons pas nous détacher de tous vos prédécesseurs. Nous sommes obligés de suivre ce que l'Église a enseigné pendant 2000 ans. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons maintenir notre attitude ferme dans la foi? Y a-t-il vraiment dans l'Église et dans nos pays, y a-t-il vraiment des raisons graves pour pouvoir ainsi nous manifester notre fermeté devant les autorités de l'Église? C'est une chose grave que de s'opposer aux autorités de l'Église. Avons-nous vraiment des motifs sérieux d'en arriver à cette attitude qui est très pénible et très douloureuse? Je voudrais bien aujourd'hui avoir tous les évêques d'Allemagne ici présents dans cette salle. Je voudrais bien aller les visiter, leur rendre visite et leur dire, mais mes chers confrères dans l'épiscopat, enfin, voyez ce qui se passe dans vos diocèses. Voyez ce qui se passe dans vos églises. Voyez ce qui les fidèles qui sont en train de quitter les églises à cause de ce qui se passe dans la liturgie. N'y a-t-il pas eu dans un journal il y a peu de temps, n'est-ce pas, une constatation qui a été très douloureuse, qui devrait être douloureuse pour les évêques allemands? 3 millions de catholiques allemands en moins qui pratiquent au cours de ces dernières années. À cause de la liturgie, nous dit cette personne qui a fait une étude sur l'abandon par les églises, des églises par une grande partie de la population allemande. Pourquoi cela? Les évêques devraient s'en inquiéter. Nous avons lu encore, hier, on nous a montré un catéchisme nouveau, avec des images absolument abominables pour un catéchisme. On ne peut pas comprendre comment les évêques d'Allemagne peuvent supporter que ce catéchisme soit publié en Allemagne. Et je ne parle que de quelques exemples, mais nous pourrions en citer dans tous les pays du monde d'une manière, un nombre incalculable de faits qui sont tout à fait désastreux, n'est-ce pas? Les images qui ont été publiés dernièrement en Belgique à l'occasion de la journée missionnaire d'aujourd'hui, la journée missionnaire à Bruxelles, donnent des images des messes, mais abominables. Ce ne sont plus des messes catholiques, et cela est affiché publiquement pour attirer les gens à l'exposition missionnaire pour la journée missionnaire. Mais que pensent les évêques qui laissent faire des choses comme celle-là? À Paris, il y a 8 jours, vient de paraître, sous la protection du cardinal archevêque de Paris, et dirige une brochure faite sous la direction du Centre national de l'action catholique Jean Barre. Ce Centre national catholique a édité une brochure dans laquelle il est dit l'Eucharistie après la consécration est-elle toujours du pain? Oui, elle est toujours du pain. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est présent corporellement dans cette Eucharistie? Non, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas présent dans cette Eucharistie. Publié sous les auspices de l'archevêque de Paris. Mais c'est inouï, invraisemblable, on est en train de détruire notre foi. Et c'est pourquoi nous sommes obligés de nous opposer à cela. Malgré toute la douleur que nous éprouvons, nous voudrions bien être en pleine communion, en pleine amitié avec tous les évêques et avec Rome. Mais nous ne pouvons pas supporter ces choses-là. Je citerai un autre fait, par exemple, lorsque j'étais en voyage aux États-Unis au mois de mai dernier, je me suis rendu à Houston, aux États-Unis, et dans la semaine religieuse de l'archevêque de Houston, il demandait à tous les enfants et aux parents de ceux qui devaient être confirmés, donc recevoir le sacrement de confirmation, de se rendre pendant 15 jours chez le rabbin et 15 jours chez le pasteur protestant afin d'entendre l'enseignement et de connaître l'enseignement des rabbins et des protestants. Sinon, la confirmation leur était refusée. Il fallait qu'ils passent donc 15 jours chez le rabbin et 15 jours chez le pasteur protestant avant de recevoir le sacrement de confirmation. Et il nous est difficile de ne pas parler de l'attitude actuelle des autorités romaines, je ne dis pas de l'Église, car je crois que l'Église est occupée actuellement. L'Église de Rome est occupée. Et que elle est occupée jusqu'à quel point, là c'est un mystère. Je ne veux pas parler des personnes, je parle seulement des faits. Nous connaissons les faits, nous savons qu'il y a des relations entre le Vatican et la Russie et le pouvoir soviétique qui nous déconcerte depuis le Concile, et au Concile on ne veut plus condamner le communisme, on ne veut plus s'opposer au communisme, et je le sais pertinemment puisque j'ai moi-même porté au cardinal Felici 450 signatures d'évêques qui ont été refusées. Et vous savez, je viens d'apprendre par le livre du révérend père Lépidi, un jésuite qui vient de faire un livre qui s'intitule « Mosca et Vaticano »,« Moscou et le Vatican ». Ce livre a été écrit en anglais, mais il est traduit en italien « Mosca et le Vatican ». Il découvre ce qui s'est passé au Concile que moi-même je ne savais pas à ce moment-là. Lorsque j'ai porté moi-même avec Mgr Sigo, de l'évêque de Diamantina du Brésil, les signatures à Mgr Felici pour faire condamner le communisme au Concile, eh bien, ces signatures ont disparu dans un tiroir. On a prétendu qu'on ne les avait pas reçues à temps, alors que c'est tout à fait faux, qu'on ne savait plus où elles étaient, et si bien que la condamnation n'a pas eu lieu. Eh bien, le père Lépidi nous dit que c'est à partir de ce moment-là que l'archevêque Nicodème de Russie est venu assister aux conférences du Concile, aux sessions du Concile, qu'il n'avait pas confiance dans le Saint-Siège. Il craignait que le Saint-Siège ne tienne pas sa parole qui avait été donnée par le Saint-Siège à Moscou en disant « on ne condamnera pas le communisme pendant le Concile ». Alors ils ont reconnu que c'était vrai au moment où on a fait disparaître la demande de 450 évêques qui demandaient la condamnation du communisme. Et alors, à ce moment-là, l'archevêque Nicodème a consenti à venir assister aux séances du Concile. Vous savez parfaitement que l'Église orthodoxe, malheureusement, est entièrement dans les mains du gouvernement soviétique. C'est ce qui montre, par conséquent, la volonté de Rome d'avoir des relations amicales avec les soviets et de ne refuser de condamner le communisme. Et nous avons l'expérience, vous avez pu vous lire dans les journaux aussi, comment s'est passée la conférence d'Helsinki, où le premier discours a été fait par le Monseigneur Casaroli, qui a été fait archevêque exprès pour présider au corps diplomatique à Helsinki, et c'est lui également qui a clôturé la conférence d'Helsinki par son discours. Or, vous n'êtes pas dupe, la conférence d'Helsinki, c'est la livraison de l'Europe au communisme, ni plus ni moins, n'est-ce pas? Et par conséquent, nous ne pouvons pas admettre ces relations officielles du Saint-Siège avec le communisme, et d'ailleurs, ils en auront bientôt les conséquences avec l'Italie elle-même. Vous savez parfaitement que dans toutes les grandes villes, maintenant, les maires sont communistes, et même celui de Rome, le maire de Rome, est désormais communiste. Et tout cela, pourquoi? Parce que le Saint-Siège ne veut pas s'opposer au communisme. Il y a bien eu quelques protestations un peu avant les élections, mais beaucoup trop tard. Ce n'était pas un mois avant qu'il fallait seulement protester, mais il faudrait que l'Église prenne position, comme l'a fait le pape Pion, contre le communisme, d'une manière énergique, d'une manière forte, afin de nous protéger du plus grand danger que l'Église peut courir. Car ce n'est pas une affaire politique. Quand je parle comme cela, on me dit « Ah, Monseigneur Lefebvre fait des discours politiques ». Mais il ne s'agit pas de politique. Est-ce que nous ne savons pas que le communisme est essentiellement contre Dieu? Essentiellement contre Dieu. Essentiellement contre notre Seigneur Jésus-Christ, contre le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une école d'athéisme que le communisme, et une école forte à une main de fer qui veut obliger tout le monde à oublier Dieu et à ne plus servir Dieu, mais à servir le parti communiste. Alors ce n'est pas de la politique que nous faisons, c'est pour défendre notre foi. Nous devons bien être conscients que depuis le Concile s'est produit ce que les Italiens appellent le compromesso storico, un compromis historique. Depuis le Concile, il y a eu un compromis historique entre la vérité et l'erreur, entre le bien et le mal. On a voulu non plus combattre l'erreur, non plus essayer de dissiper l'erreur pour le bien des hommes, non plus dissiper le mal pour le faire le bien, mais on a fait un compromis. Il a fallu s'entendre avec l'erreur, s'entendre avec le mal. Et c'est ce faux œcuménisme, par ce faux œcuménisme, n'est-ce pas, que s'est concrétisé ce compromis historique. Cette espèce, comme je l'ai dit dans ma conférence de Lille, cette espèce d'union adultère entre des hommes d'Église, je ne dis pas l'Église, entre des hommes d'Église et le monde. On a voulu désormais embrasser tous ceux qui professent l'erreur, toutes les erreurs. Il a fallu maintenant, n'est-ce pas, qu'on accepte de dialoguer, comme on dit, mais un dialogue qui nous met sur le même pied que ceux qui sont dans l'erreur. On a voulu donc mettre la vérité et l'erreur sur le même niveau, donner les mêmes droits à la vérité et l'erreur, n'est-ce pas, à l'erreur qu'à la vérité. Voilà des choses qui sont absolument déplorables et qui sont le fruit d'un esprit libéral. Et c'est ce libéralisme qui maintenant corrompt toutes nos institutions actuelles. C'est cela que nous devons comprendre, et c'est cela qui explique toute la situation actuelle de l'Église, cette compromission avec l'erreur. Et elle se manifeste, par exemple, dans cet esprit de collégialité qui s'est manifesté au Concile. Et cet esprit de collégialité n'est ni plus ni moins qu'un esprit, démocratique, un esprit qui met l'autorité à la base, et non plus une autorité qui vient de Dieu. L'autorité ne vient plus de Dieu, elle vient du peuple, elle vient de la base. Et c'est ce qui fait que dans l'Église, actuellement, il y a un malaise terrible, à cause de cette autorité qui ne s'exerce plus et qui ne peut plus s'exercer comme le faisaient autrefois le pape et les évêques. Ils sont prisonniers de synodes, prisonniers des assemblées. Les évêques eux-mêmes le disent lorsqu'on leur en parle, lorsqu'on leur demande quelque chose. « Ah, il faut que je consulte l'assemblée. Je ne peux rien faire sans l'assemblée épiscopale. » Les évêques ne sont plus libres. Et ceci est contraire absolument à la constitution divine de l'Église. Un esprit qui est absolument faux et qui est absolument contraire au bien de l'Église. Le pape n'ose plus maintenant dire quelque chose aux conférences épiscopales. Il est réduit à néant parce que si une conférence épiscopale affirme une chose qui n'est pas d'accord avec le Saint-Père n'ose pas intervenir. Il n'ose pas s'opposer à une conférence épiscopale. Voilà des organismes qui ne sont pas des organismes faits par notre Seigneur. L'assemblée épiscopale n'est pas de droit divin, elle est de droit ecclésiastique. C'est une invention, si je puis dire, et une organisation qui vient purement de l'Église et de l'autorité de l'Église, mais pas de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai moi-même fondé 4 conférences épiscopales. Je ne suis pas a priori contre les conférences épiscopales, mais je pense qu'elles devraient avoir une définition très précise et une limite de pouvoir très précise également, très exacte, afin de ne pas devenir une assemblée qui remplace le pouvoir de tous les évêques, voyez-vous. Et cela nous vient du Concile, vient de l'esprit qui s'est manifesté au Concile. Ce compromis se manifeste aussi par l'esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà par cet esprit d'œcuménisme, qui est un faux œcuménisme, et qui est à l'origine de toute la réforme liturgique et de toute la réforme des séminaires. On a voulu faire une espèce de compromis avec les protestants. Encore une fois, nous avons beaucoup de respect pour les protestants qui sont ici. Nous ne voulons pas du tout manifester une animosité contre les protestants, mais je pense que les vrais protestants aiment que les catholiques affirment leur foi véritable, leur foi catholique. J'ai eu l'occasion à Genève de prononcer un discours aussi, et j'ai reçu de la part de pasteurs protestants qui assistaient au discours que j'ai fait à Genève et qui m'ont félicité en me disant « Mais nous préférons des catholiques qui affirment leur foi catholique que des catholiques qui nous disent « Vous savez, il n'y a pas de différence entre les protestants et les catholiques, tout est semblable, nous avons la même foi, nous avons le même baptême, nous avons les mêmes sacrements, nous avons le même culte eucharistique. » Ils disent « Nous n'aimons pas ces gens-là, ils nous trompent, parce que nous savons très bien que ce n'est pas la foi catholique. » Nous préférons des catholiques qui affirment leur foi. Et nous avons peur de ces catholiques qui abandonnent leur foi et qui nous font croire qu'ils ont la foi protestante. Parce que si les catholiques abandonnent leur tradition, et si les catholiques abandonnent leur foi, eh bien nous aussi, petit à petit, nous abandonnerons aussi notre foi protestante et nous abandonnerons notre culte protestant. Alors les vrais protestants sont avec nous, sont avec ceux qui affirment la foi catholique. Et c'est pourquoi je n'ai pas peur d'affirmer que dans cet esprit d'œcuménisme, qui veut justement faire une espèce de compromis, de mélange des doctrines catholiques et protestantes, n'est-ce pas, arrive à nous donner une messe qui est à moitié protestante, à moitié catholique. Mais une messe ambiguë, on ne sait plus exactement ce qu'elle est. C'est la même chose pour nos sacrements. On nous a changé le Notre Père. Pour soi-disant prier comme les protestants prient. On nous a fait donc un autre père qui est à moitié catholique, à moitié protestant. Et tout à l'avenant, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est pas marcher dans la vérité. Nous ne pouvons pas faire des compromis de ce genre. Et il en est de même avec les francs-maçons, par exemple, n'est-ce pas? On fait maintenant des compromis avec la franc-maçonnerie. J'ai eu l'occasion de voir un des membres de la commission qui a été demandé par Rome, ici en Allemagne, une commission spéciale qui a été formée pour savoir comment les évêques pourraient autoriser les laïcs à faire partie de la franc-maçonnerie. Et donc, il y a eu des pourparlers. Je ne sais pas où en est cette commission, je ne sais pas où en sont ces pourparlers. Mais le seul fait que Rome demande, peut-être aussi sur la requête de certains évêques, je ne sais pas, de certains évêques allemands, c'est possible. Mais en tout cas, il y a une commission qui existe ici en Allemagne, comme il y en a une aux États-Unis, comme il y en a une dans d'autres pays, pour voir dans quelle mesure les catholiques laïcs pourraient faire partie de la franc-maçonnerie. Mais ça dépasse l'imagination. Quand on sait ce que c'est aussi que la franc-maçonnerie, lorsqu'on sait que la franc-maçonnerie est essentiellement contraire à notre Seigneur Jésus-Christ, au règne de notre Seigneur Jésus-Christ, et au règne de l'Église, eh bien, on ne peut pas imaginer qu'il puisse être autorisé que des laïcs fassent partie de la franc-maçonnerie. Ce sont des choses qui vraiment dépassent notre imagination. Alors que peut-être 50 papes ont parlé contre les sectes occultes. 50 papes nous ont mis en garde contre les sectes occultes. Et voilà que maintenant, alors, il y aurait une espèce d'entente et de compromis avec des gens qui sont essentiellement contre l'Église et contre notre Seigneur.
Je demanderai à mon interprète de vous lire un tout petit texte du Concile dans Gaudium et Spes, qui montre justement comment, déjà dans le Concile, on a eu cette pensée, n'est-ce pas, de mélanger en quelque sorte les doctrines, d'unir les doctrines du monde avec les doctrines de l'Église, les principes du monde, les principes libéraux avec les principes de l'Église. Et c'est de là que sort tout le mal dont nous souffrons actuellement. On nous donne des fruits empoisonnés, des fruits qui ne sont plus des fruits véritablement catholiques. Alors nous avons besoin, n'est-ce pas, d'affirmer notre foi et de refuser absolument tous ces fruits qui ne nous donnent plus véritablement la foi catholique et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que l'on nous frappe, que l'on nous pénalise, que l'on nous donne toutes les peines que l'on voudra, nous défendrons notre foi jusqu'au sang s'il le faut, n'est-ce pas, nous ne serons pas les premiers dans l'Église à avoir donné notre sang pour défendre notre foi. Tous les martyrs ont donné leur sang pour défendre leur foi. Et pourquoi, sous quel motif notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a-t-il été crucifié? Pour un motif politique. Parce qu'il s'opposait à César. Parce que notre Seigneur voulait remplacer César, se faisait Dieu, et il n'y avait que César qui était Dieu. Eh bien, c'est la même chose actuellement. On nous attaque aussi, on nous dit, vous faites de la politique, vous êtes contre la politique. Oui, si nous, parce que nous voulons que notre Seigneur Jésus-Christ soit le roi. Et le monde ne veut pas que notre Seigneur Jésus-Christ règne. Nolumus on craignare super nos. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Voilà ce que crie le monde qui est sous l'influence du démon, n'est-ce pas? Alors, parce que nous voulons le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, alors on nous dit, vous faites de la politique. Non, nous ne faisons pas de la politique. Et encore, nous pourrions dire, oui, nous faisons de la politique d'une certaine manière. Parce que la société civile, qui a tant d'influence sur nos familles, tant d'influence sur nous-mêmes, sur nous, sur notre âme, sur le salut de notre âme, nous voulons que toute l'ambiance dans laquelle nous vivons soit soumis à la loi de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tous les jours, dans notre prière, nous ne disons pas « Que votre règne arrive dans le Notre Père, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel ?» Alors nous voulons que cela se réalise, que ce souhait de notre Seigneur se réalise. Nous savons bien que c'est difficile, nous savons bien que nous sommes obligés de tolérer beaucoup de choses, mais nous devons toujours avoir ce désir intense
de faire en sorte que notre Seigneur Jésus-Christ règne sur nos personnes, sur nos familles et sur nos sociétés. C'est le but de l'Église catholique. C'est pour cela que notre Seigneur est mort sur la croix. C'est pour cela que nous voulons garder le saint sacrifice de la messe. Car n'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ règne par sa croix. Regna vit aligno crucis. Il régna par le bois de la croix. Notre Seigneur a eu sa victoire et il est roi grâce à sa croix. Et sa croix, c'est notre messe. La croix, c'est la messe catholique. Alors nous voulons la messe catholique pour le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà tout notre problème. Nous n'avons pas d'autre problème. Et je pense que les évêques doivent comprendre cela. Ils ne peuvent pas ne pas comprendre cela s'ils ont encore l'esprit catholique. Ou alors s'ils ne comprennent plus que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui doit régner par sa croix, par sa messe, par ses sacrements, par son catéchisme, alors ils ne sont plus catholiques.
Il nous reste à conclure maintenant, je ne veux pas prolonger trop cette conférence, mais nous allons la conclure par la Sainte Messe précisément. Et nous allons prier pour la Sainte Église, dont nous faisons partie, que nous représentons, dont nous sommes les fils les plus soumis, dont nous sommes les fils les plus aimants. Nous aimons l'Église catholique, nous aimons l'Église catholique romaine, nous aimons le souverain pontife, nous aimons les évêques. Nous voulons vivre avec eux, nous voulons être avec eux, mais qu'ils ne s'éloignent pas de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils ne s'éloignent pas de la doctrine de l'Église. Précisément, c'est ce que nous leur demandons, qu'eux ne fassent pas schisme. Quand eux nous disent « ne faites pas schisme, ne faites pas schisme », mais ce n'est pas nous qui faisons schisme, ce sont eux qui font schisme. De grâce qu'ils restent dans la foi catholique, qu'ils continuent à nous enseigner la foi catholique. Nous allons prier pour cela, nous allons prier pour eux, nous prions pour l'Église, pour tous ceux qui ne croient pas, afin qu'ils croient un jour en la Sainte Église catholique, qu'ils croient en notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils croient dans la vérité que notre Seigneur Jésus-Christ a donnée à son Église, afin que les âmes se sauvent, car c'est là le problème actuellement, que d'âmes se perdent, de jeunes, surtout les jeunes générations qui abandonnent l'Église et qui ne croient plus à rien, qui oublie notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous voudrions que les âmes se sauvent. C'est tout notre but, c'est tout ce pourquoi je fais des séminaires, c'est ce pourquoi je fais des prêtres, pour sauver les âmes et que les âmes aillent au ciel. Voilà notre but. Alors nous allons prier au cours de cette Sainte Messe, n'est-ce pas, avec beaucoup de recueillement, et nous allons demander à notre Seigneur Jésus-Christ d'être le roi. Qu'il soit le roi, qu'il règne sur l'Église, qu'il règne sur le monde, qu'il règne comme il règne au ciel. Et nous le demanderons particulièrement aussi à la Très Sainte Vierge Marie, car elle est notre mère, elle est notre reine, elle est la reine du ciel. Demandons, comme vous l'avez fait tout à l'heure très bien en priant le chapelet, demandons à la Très Sainte Vierge Marie de nous aider à sauver l'Église, à sauver les âmes.